Oscar Miloche, Contes et légendes de la vieille Lituanie. Histoire du voyageur qui assassina son compagnon. Deux pauvres hères couraient le monde en quête de quelques sous et rogatons. Un jour de forte chaleur, ils s'arrêtèrent au bord d'un ruisseau, y étanchèrent d'abord leur soif, et se couchèrent ensuite à l'ombre d'une saulaie. L'un des voyageurs se prit aussitôt à ronfler de toutes ses forces. Son compagnon, que le sommeil fuyait, s'amusait, faute de distraction, à observer le visage du dormeur que la respiration gonflait et dégonflait à intervalles réguliers. Tout à coup, il voit sortir de la bouche entr'ouverte un petit souriceau rouge sang. Malgré son trouble, il se jette à sa poursuite. La bestiole se prépare à traverser le ruisseau à la nage. Il lui fait un pont de son épée. Le petit lutin s'y engage, gagne l'autre rive et fait diligence vers un gros tas de pierres où il disparaît. Le cheminot, fort intrigué, va s'asseoir à quelque distance et voit bientôt le sorcier Carminé quitter son abri et rebrousser chemin vers le petit cours d'eau. Là, il lui tend de rechef sa lame. Le souriceau soulève poliment son bonnet et court à toutes jambes se cacher dans la bouche de son maître. Celui-ci se réveille et raconte à son ami le rêve qu'il vient de faire. « Je sors d'un monde merveilleux, mon vieux. Tu m'envoies encore tous tes bobies. Quel extraordinaire voyage! J'arrive au bord d'un fleuve et je le traverse sur un pont qui brillait comme le soleil et qui semblait n'avoir point de fin. Sur la rive opposée se dressait un magnifique palais. J'y entre et je découvre au fond d'une interminable galerie un monceau d'or. Sans y toucher, je retourne sur mes pas et tu retrouves le même fleuve, le même pont étincelant, et tu regagnes, n'est-il pas vrai, l'endroit où nous sommes. Tout cela est ma foi fort étrange, car je connais ton rêve comme s'il s'était déroulé dans mon propre esprit. Lève-toi et suis-moi. » Les deux compères traversent le ruisseau, soulèvent l'une après l'autre les grosses pierres, grattent un instant le sol sur lequel elle reposait et trouve une marmite pleine d'or. Il l'emporte dans un bosquet, mais le partage était à peine commencé que l'homme qui avait vu le souriceau à l'œuvre sentit s'agiter dans son sein le démon de la cupidité. Le trésor était si considérable qu'il leur fallut plusieurs heures pour venir à bout de leur compte. La nuit approchait. Ils résolurent de la passer dans le bocage. Le ronfleur n'eut pas plus tôt poussé sa première note que l'épée du compagnon s'enfonçait dans son cœur, se colorant de rouge comme tantôt au passage du diabolique rongeur. Le mendiant maître du trésor était maintenant un gros bonnet, propriétaire à la grande ville, d'une entreprise de pulvérisation des eaux. Trop riche pour travailler, il se contentait, vers la fin de la journée, de contrôler ses livres et montait dans un magnifique carrosse à 4 chevaux. Après quelques années d'une vie qu'il comparait à un songe, les origines de sa fortune s'effacèrent complètement de sa mémoire. Environné du respect et de la considération de tous, il en conçut une haute idée de ses mérites, ne rêvant plus qu'anoblissement, ballerine et palais à Vilna. Un jour, une disette d'eau le détermina à entreprendre un voyage en vue de s'en procurer à n'importe quel prix. Il emmena avec lui un petit chien qu'il aimait à la façon des parvenus et aussi de certains artistes de 10e ordre. C'est-à-dire beaucoup plus pour sa rareté ou sa beauté que pour sa gentillesse et son intelligence, digne pourtant d'une moins nauséabonde planète. Le chien le sentait et en riait en silence, dans sa barbe pointue et grisonnante. Après avoir longé quelque temps le Niémen, fleuve qui, dans cette région, traverse un des sites les plus pénétrants de ce monde, il s'engageait, peu avant le coucher du soleil, dans une forêt bruissante où frênes et bouleaux mariaient leur tendre feuillage d'automne. Le petit chien humait le vent d'un air inquiet. Le cocher semblait plongé dans une profonde rêverie. Engoncé dans une riche pelisse de loutre, le cheminot assassin, devenu honnête bourgeois, rougeau et replet, tétait béatement un gros cigare, enfoncé jusqu'à la bague, dans la gueule lipue. Tout à coup, le barbet bondit avec un jappement par-dessus le pare-boue et vole comme une flèche dans le fourré. Le cocher arrêta les chevaux, descendit de son siège et alla voir ce qui intriguait si fort le chien. Celui-ci s'était arrêté devant quelques vieux ossements et aboyait avec fureur. L'homme retourna aussitôt sur ses pas et fit part de sa découverte à son maître. « Tiens, tiens, des os, attache donc tes chevaux à un arbre et montre-moi le chemin. » Ils sont déjà tout verts. Il y a sans doute des années qu'ils sont là. Tenez, voyez-vous-même. Le patron prend l'os que lui tend le cocher, mais il l'a à peine touché que de vert qu'il était. L'humérus devient rouge comme braise. Troublé, il le rend au cocher. Le mélancolique objet reprend aussitôt sa couleur de moisissure. Le Richard embrasse les lieux d'un regard furtif. Voyons, est-ce un rêve? Le vieux bouleau que voilà. Là-bas, l'éclaircie. Il fait quelques pas. Oui, c'est bien cela. Le pré et le ruban d'eau que colore un dernier rayon. On dirait une épée sur laquelle glisserait... quoi? Un souriceau rouge ou du sang? Bah, c'est arrivé il y a 20 ans, c'est comme si cela n'avait jamais été. Ramasse-les, va par le temps qui court, et puis non, tiens, jette-les. C'est sûrement pas des diableries, ça doit être un phénomène de phosphorescence, mais j'aime mieux qu'ils restent où ils sont. Et les deux hommes retournent à la voiture. Le lendemain, le cocher qui avait une âme d'artiste s'empressa d'ébruiter l'aventure en l'enrichissant de quelques détails qui, d'un simple passage du vert au rouge, faisaient une succession de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. L'apparition d'un squelette arlequin faisait maintenant, sur 10 000 bouches, le tour des 100 cabarets de la ville et des environs. Si bien que, 6 mois plus tard, l'excellente police de son Altesse Sérénissime finit par avoir vent de quelque chose. On dressa rapport sur rapport, on fit enquête sur enquête, et en raison de cette louable célérité, les autorités se virent en mesure, vers le déclin de l'année, de visiter les lieux de l'événement en présence du patron, du cocher et du chien. Grâce à ce dernier, les ossements furent retrouvés sans peine. L'un des policiers, ancien cambrioleur de tombeau et vampire, reconnut sur le champ leur nature. « Prenez-moi ça dans votre main, cher monsieur, » dit tout à coup le commissaire en se tournant vers notre Richard. L'os, naturellement, s'empresse de passer du vert au rouge, tandis que le visage haut en couleur de l'accusé faisait le chemin inverse. Le pauvre homme eut la sagesse de faire sur place des aveux complets, ce qui lui permit d'oublier, très peu après, au bout d'une corde, pauvreté et richesse, respect et infamie, joie et douleur, et le reste. et tout le reste.